Vendredi 29 mai, bienvenue à Angle Mort, mes chers amis. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Martin Matt et de la publicité Maxi. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous relate. Maxi a pris Martin Matt comme porte-parole depuis déjà quelques années. Campagne qui obtient toujours un très grand succès. Les publicités sont conçues, écrites par Martin et l'équipe de l'agence de pub. Puis c'est super bon. T'sais, c'est vraiment c'est du Martin Matt top. Puis ça marche super bien. Et là, voilà que la dernière pub qui a été mise en ligne puis qui est passée à la télé, etc., c'est un clin d'œil à une nouvelle politique que Maxi a de pousser les produits locaux. Puis c'est Martin Matt dans un déguisement de gros, donc avec une grosse face mais une grosse bédaine, qui fait un clin d'œil au fait qu'en confinement, tout le monde a pris quelques livres, puis que lui, ben maintenant, il mange miam miam, c'est bon, une bonne tomate savoura dans de la crème glacée Coaticook, puis t'as l'affaire. C'est quasiment objectivement drôle, là, c'est-à-dire que c'est très, très drôle, mais ça a offensé des organismes qui parlent de grossophobie, comme quoi ça amène une anxiété puis une angoisse supplémentaire aux gens qui sont gros, puis qui pourraient se sentir cheap par rapport à ça, puis blablabla. Alors, il y a énormément à dire là-dessus, vous comprenez. Puis, encore une fois, c'est comme la liberté d'expression, c'est une zone grise. C'est-à-dire qu'on peut régler cette affaire-là en disant « Je m'en tabarnak de vos états d'âme, on s'en calisse. » On peut faire ça, c'est revenir à la loi de la jungle. Je pense qu'il y a moyen d'être un petit peu plus wise. Puis, on peut, de l'autre côté... être sensible à tout, puis qu'à partir du moment où on est heurté, on juge que c'est ça le critère. Je veux d'abord donner mon explication à cette sensibilité-là qui existe, qui n'existait pas avant. Je veux juste vous faire le film du match. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la gauche, c'est ce que moi j'appelle la gauche des sensibilités. C'est-à-dire que la gauche, avant, c'était la protection du travailleur. C'est un mot qu'on n'entend plus jamais maintenant parler, qui venait de Karl Marx, puis qui a été mis par les communistes avec la révolution bolchevique en 1917. Je ne ferai pas un expert de moi, mais il y a quand même des jalons que je connais. Puis qui a créé le communisme, qui a été un essai raté, parce que partout sur la planète, le communiste a besoin de la violence, puis a besoin de restreindre fortement les libertés pour pouvoir dire qu'elle existe. Puis quand elle existe, elle a certains succès dans certains domaines. La seule île à travers la planète qui vit un communisme relativement heureux, c'est Cuba, où ses habitants sont raides pauvres, mais où ils ont un réel système de santé puis un réel système d'éducation qui fonctionne, qui torche pour le peu de moyens qu'ils ont. Mais pour le reste, qui veut... Comme je dis souvent, je me souviens d'avoir vu Léopold Lauzon, un économiste qui était à Tout le monde en parle, dont la conjointe était cubaine ou l'est encore, là, je suis pas d'impotent. Puis il parlait de Cuba, comprends-tu? Il dit, les gens ont de la mauvaise information, Cuba c'est fantastique, puis Cuba c'est hot, puis c'est beau, puis tu sais, toute la patente. Puis tu sais, à Tout le monde en parle, personne répond à personne, là. Mais moi, si j'avais été là, j'aurais fait « Hey, vous avez vraiment raison, M. Lauzon, comment fait foi tous ces gens américains de Miami qui se sauvent la nuit en bateau pour aller vivre à Cuba, hein? » Parce que vous aurez compris que c'est exactement l'inverse. Ça fait que donc, le communisme, ça a été un échec, puis pour que le communisme existe, il fallait qu'il soit forcé, si on veut. Mais à l'époque, ce qui est devenu la gauche, à vrai dire, c'était l'extrême gauche, c'était le communiste qui, à un moment donné, a amené cette idée-là. Mais je veux dire qu'il existait, la gauche, la droite, ça existait à mort, là. La révolution, quand tu parles de la Révolution française, il y en a qui allèguent que ça a été mis par les gens qui étaient fondamentalement de gauche, ce qui est assez vrai selon moi. D'autres disent que non. C'est pas l'avènement du communisme qui a amené l'idée de la droite ou de la gauche, mais elle l'a cristallisé très fortement parce qu'après ça, bon, tu sais, ça a été mis sous forme des syndicats, etc., blablabla. Bla, bla. Et ça nous amène aujourd'hui où tout à coup la gauche est plus du tout la gauche du travailleur, la gauche du monsieur, madame, tout le monde. C'est devenu la gauche des identités. C'est devenu la gauche que moi j'appelle la gauche des sensibilités. C'est-à-dire que tous les groupes qui étaient historiquement plutôt opprimés, donc les groupes, les gens racisés, les homosexuels, blablabla, se sont mis à prendre une place dans la société qui n'existait pas. Les homosexuels étaient soit méprisés, on riait d'eux autres, la fameuse expression « sortir du placard », Puis là, tu sais, c'est pas toujours la société qui est à blâmer. Des fois, c'était le microcosme familial. Tu sais, tu voulais pas le dire à tes parents, etc. Puis ce qui est encore vrai, hein, si vous pensez aujourd'hui que l'homophobie, ça n'existe plus, puis ça porte bien son nom, homophobie, c'est-à-dire une espèce de peur, une espèce de haine d'une orientation sexuelle qui est pas la norme, c'est-à-dire hétérosexuelle. Puis tous ces groupes-là ont pris de la place pour une raison tout à fait claire, simple et quasiment mathématique, c'est que les médias ont commencé à leur donner de la place. Alors, si vous reculez il y a 25-30 ans, ben, je veux dire, quelqu'un qui aurait dit, moi, je veux que mon homosexualité soit médiatisée, je veux faire un article, je veux te faire telle affaire, tout le monde s'en sac. C'est culturellement, les gens en général, puis les médias en particulier, n'étaient pas là. Et tout à coup, ils se sont mis à être turbo, là. Alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose à droite à Radio-Canada. Tu comprends qu'il y a des médias qui ont commencé à avoir une espèce d'esprit de gauche, un esprit plus égalitaire, plus... puis qui a amené la société à évoluer puis à avoir des sensibilités différentes. Puis faites bien attention, la différence entre la société a évolué et les sensibilités, parce que ça ne veut pas dire que tout à coup, on a puis on voit des réactions comme on le voit avec Martin Matt qui ont lieu, puis qu'une compagnie d'envergure décide de dire « Écoutez, on s'excuse, on enlève la pub », ça ne veut pas dire que la société est rendue là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui décident dans les médias de parler ou pas de quelque chose, puis il y a des gens qui sont propriétaires de compagnies qui disent « On met des choses de l'avant et on les retire ». Il ne faut pas penser que c'est tributaire de ce qu'est la société comme telle. La grossophobie, qui est le mot qui est employé aujourd'hui dans cette affaire-là, est un très mauvais mot. Ça ne marche pas. Il n'y a pas personne qui a peur des gros. Je suis désolé. Si tu vois un gros sa rue, ou un obèse, ou un surpoids, prenez tous les mots pour camoufler ce que vous voulez, là. Il n'y a personne qui change de trottoir en se disant « ça me fait peur ». Comprenez-vous? C'est exagéré. Il n'y a pas de grossophobie. Ce qu'il y a, c'est peut-être effectivement un genre de mépris, un genre de « check le gros qui se laisse aller », etc. Il y a une étiquette qui existe encore qu'on met sur une grosse personne pour toutes sortes de raisons, vraies, fausses, peu importe. Mais je fais juste dire que ça existe, mais le mot n'est pas le bon. Maintenant, quand on fait le lien entre tout ce que je viens de vous dire, on réalise que dans la société d'aujourd'hui, si on parle de la gauche des sensibilités, tout le défi qui a rapport avec le défi de la liberté d'expression, dont on est exactement dans la même dynamique, c'est de voir jusqu'à quel point ces sensibilités-là doivent être prises en compte. Jusqu'à quel point, quand je fais partie d'un groupe minoritaire, donc... souvent opprimé, c'est l'équation qu'on peut faire. Encore là, à tort ou à raison, c'est pas parce que t'es minoritaire que t'es définitivement opprimé. Puis à un moment donné, il faut revenir en 2020. Là, on peut pas tout le temps reculer en disant « oui, mais moi, dans mes origines, blablabla ». Il faut s'actualiser. Mais où c'est intéressant, où est-ce qu'il y a une réelle zone grise, là, c'est que d'un côté, t'as des gens qui ont des sensibilités, puis que vivre en société, c'est aussi respecter ça. C'est un peu le même débat avec les vaccins, de dire « Ah, je ne me ferai pas piquer dans le bras, c'est de mes affaires, c'est mon corps, blablabla. » Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, OK, mais c'est aussi le respect des autres. Parce que s'il y avait un vaccin pour que tu arrêtes de fumer, on s'en claque. Tu le prends, tu le prends pas, tu fumes, je m'en fous. Mais un vaccin qui fait en sorte que si tu le prends pas, ça se peut que tu ailles un virus et ça se peut que tu le propages, le côté viral change toute l'affaire. C'est qu'on est dans la même dynamique ici, là, tu sais. C'est vraiment de constater que si on est tout le temps en train de se foutre des sensibilités de tout le monde, ben on est un petit peu dans la loi de la jungle, puis effectivement, les plus forts vont toujours avoir le haut-parleur. Fait que ça prend des organisations fortes pour au moins sensibiliser les gens à des réalités qu'ils peuvent ne pas connaître. Moi quand est arrivée l'affaire de Slav, etc., puis Robert Lepage et tout, je trouve qu'on est exactement à la même place d'ailleurs, c'est-à-dire encore une fois, genre non, faites pas ça parce que vous heurtez notre histoire, vous heurtez telle affaire, parfait, puis là on tombe dans le débat de on a le droit de créer, pas créer, blablabla. Il reste que moi, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une oreille à la sensibilité de quelqu'un qui dit comment moi je vis ça, t'as pas d'idée. Je me souviens d'une excellente entrevue qui avait été donnée par un historien haïtien, d'origine haïtienne, mais un français, on n'est pas couché. Puis il a écrit un livre sur l'esclavagisme en France. C'est les Français qui, en premier, ont aboli l'esclavagisme en Haïti, avant les Américains. Puis lui, ce qu'il exprimait, c'était non seulement l'histoire de ça, donc la France versus l'esclavagisme, mais il dit, je suis obligé de vous faire part de mon vécu, parce que vous savez pas c'est quoi l'espèce de gêne qu'on traîne tout le temps à l'idée que moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, c'était un esclave, c'était quelqu'un qui valait rien, c'était un objet qu'on utilisait. Il dit, ça reste dans l'ADN. On comprend, là, je vous relate ce qu'il disait, là, grosso modo, on comprend que les gens finissent par nous dire « Ouais, mais passe par-dessus, puis reviens en 2020. » Puis je suis le premier à dire ça. Mais on peut-tu aussi comprendre le vécu de quelqu'un pour lequel on n'a pas d'idée? D'envie en général, d'ailleurs, tu sais. Le fameux « avant de juger quelqu'un, marche un mille dans ses souliers », là, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça fait qu'il y a ça, d'un côté. Il y a le fait que moi, je refuse de on peut plus rien dire, puis là, c'est juste des jokes, puis blablabla. C'est tout vrai, là. Mais il y a du monde qui sont heurtés. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je suis désolé, mais t'es gros, c'est un fait. On n'est même pas dans le t'es gros, t'as juste à maigrir. Je sais pertinemment que c'est loin d'être aussi facile, puis que t'as le droit d'être gros. À la rigueur, on s'en claque. C'est tout. Ça pourrait être banal, mais manifestement, ça ne l'est pas. Puis ça ne l'est pas juste du côté des gens qui ne le sont pas, mais regardez ce qui se passe, ça l'est du côté des gens qui le sont, qui, à quelque part, vont tout à coup lever un drapeau en disant « Hey, vous réveillez chez nous quelque chose, une image qu'on se fait renvoyer tous les jours, puis là, vous nous mettez ça en face à télé, etc. » Donc, d'un côté, ils ont raison de nous sensibiliser à ça, mais de l'autre... C'est quoi le nombre de plaintes qui fait que tout à coup vous avez raison? C'est ça le point. Parce que sinon, moi aussi, il y a plein d'affaires dans la vie qui me gazent, épouvantables. Il y a vraiment, là, des fois, je lis des affaires, là, puis je le sens, là, ça vient me chercher, ça m'irrite. Là, un matin, ça m'est arrivé. Là, je lisais un article dans la revue Slate, slate.fr, un nom anglais, mais pourtant, c'est un. Puis ils ont une vedette, eux autres, qui s'appelle Titiou Lecoq, qui est une féministe totale, tu sais. Puis elle parlait qu'il y avait une inversion de la culpabilité qui se fait souvent. Puis c'est intéressant ce qu'elle dit, mais tu vois, ça venait un peu me chercher parce que c'est hyper militant. Moi, je suis pas militant. Moi, j'essaie de voir les choses d'un côté puis de l'autre, là, d'où le titre « Angle mort ». Mais vois-tu, je suis quand même, moi aussi, j'ai des sensibilités. Puis je lisais ça, puis je trouvais ça un peu irritant, tu sais. Je faisais comme « Carlin, c'est tout le temps trop... » C'est toujours la même grille d'analyse, tu sais, comme ultra-féministe, puis il y a des affaires là-dedans que tu fais « non, je trouve que t'exagères ». Puis c'est pas parce que c'est pas conséquent ou pas brillant, mais c'est comme, il y a un bout exagéré parce que c'est une militante. Ça, comprenez-vous, je suis pas un cube de glace, sauf que quand est-ce que moi, il faut que je juge que mes irritations à moi, puis basé sur quelle grille d'analyse que mes irritations à moi valent celles des gros? Et la réalité de tout ça, c'est l'amplification de la sensibilité. Si vous avez une sensibilité qui est heurtée, mais qu'elle peut être amplifiée, dans ce cas-là, c'est amplifié par les médias, c'est amplifié par une association, etc. Là, c'est comme si votre sensibilité, elle a une importance qui lui donne une figure d'action. Si votre sensibilité, c'est une sensibilité qui n'est pas amplifiée, vous êtes, par exemple, il y en a là, des affaires qui sont vraiment... vous êtes une femme son chum vient de la tromper, par exemple. Bon, tu sais, à la rigueur, on pourrait dire « calvaire, c'est vraiment élevé, c'est super poche. » Ou le gars qui, sa femme, lui apprend tout à la bain, puis là, finalement, chérie, je te laisse, je suis en amour avec mon collègue depuis un an, tout ça. Tu sais, mais ça, c'est pas amplifié. Il y a pas un média qui va faire « Hey, j'ai une histoire à vous raconter incroyable, devine quoi. » Mais il y a des sensibilités qui sont la nouvelle gauche, que j'appelle la gauche des sensibilités, est amplifiée. C'est ce mot-là qu'il faut comprendre. C'est à partir du moment où ta revendication est amplifiée, c'est là qu'elle peut avoir un poids. Excellent jeu de mots. Et l'angle mort ici, que personne ne parle, c'est la compagnie elle-même. En un mot, pour moi ici, c'est que vous aurez compris que je comprends les gens qui sont heurtés, qui s'expriment. Je comprends de l'autre côté les gens qui disent « Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'éternel combat de qu'on peut rire, de qu'on peut pas rire, etc. » Mais ici, il y a une responsabilité que je trouve qui n'est pas prise par Maxi. C'est celle de donner le pouvoir aux plaintes. Tu peux pas donner le pouvoir aux plaintes, malgré que leur réponse est excellente. Eux autres, là, ils ont complètement assumé de dire « Regardez, on l'a échappé, celle-là. » Puis, c'est intéressant parce que, règle générale, c'est une compagnie qui est en humour, puis personne ne se plaint Il n'y a pas de plainte justement amplifiée. Il doit en avoir, mais ils ne sont pas amplifiés. Ils touchent des sensibilités qui ne reçoivent pas là, un haut-parleur, là, si tu veux, là, pour les mettre plus grosses. Mais Maxi, ici, a juste été en réaction à des plaintes. Or, c'est qui est important ici? C'est-tu les clients de Maxi potentiels qui ont aimé, parce que clairement, il y a beaucoup plus de monde qui ont aimé cette pub-là et qui la trouvent drôle que du monde qui sont offensés, là, on se comprend. Ça, là, il n'y a pas de sujet à débat ici. Je remets en question la décision d'une compagnie qui dit « On enlève quelque chose qui plaît de façon écrasante et à une grande majorité de gens, dans lesquels il y a, n'oublions pas, la finalité, c'est-à-dire nous autres, on veut parler à nos clients. Si vous n'aimez pas notre pub, c'est que vous ne serez juste pas un client, on est une compagnie. Oui, une compagnie avec une responsabilité, une image, etc., mais il reste qu'eux autres, ce qu'ils viennent de faire, c'est dire, nous sommes dirigés ultimement par les plaintes. Et c'est le volume des plaintes qui décide. Je suis désolé. Si cette compagnie-là avait vraiment une sensibilité incroyable et d'éviter la grossophobie, etc., dès le départ, ils auraient dit « on ne va pas là ». Manifestement, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Ils partent en processus de création. Ils montent une pub. C'est lourd, là. C'est pas genre hey, « on va faire ça avec mon téléphone ». La pub sort et là, c'est le volume de plaintes qui décide du sort de leur décision. Moi, je trouve que gérer les plaintes comme étant le juge ultime, c'est ça la Cour suprême dans notre processus décisionnel. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Dès le départ, tu devrais dire, là, on touche à un sujet sensible, on l'assume ou c'est un sujet que nous autres, dans notre culture, on ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là. Il y a des stations de radio qui appartiennent à des compagnies d'importance. Puis de radio ou de n'importe quoi, mais c'est l'exemple qui me vient en tête, puis qui sont dans la controverse continuelle, puis manifestement, c'est des entreprises pour qui la culture de la controverse puis de la polémique, ça les dérange pas. Eux autres, ils ont dit, ça nous ressemble-tu, ça nous ressemble pas, on s'en claque, mais ce qu'on sait, on vend de la pub. C'est tout, là. Bien, tout le monde est de même, même à titre personnel. Il y a des choses sur lesquelles on fait, hey, je m'excuse. Moi, j'ai toujours dit que l'important, c'est quand quelqu'un est déçu de ce que tu as fait, c'est de t'excuser parce que ça ne tente pas de blesser personne, mais de demander à la personne au moins d'avoir la chance d'expliquer pourquoi tu l'as fait. Moi, si quelqu'un, là, la même chose avec merci. Moi, si quelqu'un me fait plaisir, je dis merci. Puis des fois, je me fais répondre mais ça ne m'a pas demandé d'effort. Tu sais, je veux dire, regarde, j'avais déjà ça ou peu importe. Non, c'est pas ça le critère. Je dis pas merci parce que tu as fait un effort. Je dis merci parce que ça me fait plaisir. Après, tu peux même dire que c'est un truc qui pour toi était facile, je m'en claque. Tu me donnes un cadeau que tu n'as pas payé, je m'en fous, je te dis merci, mais je suis content du cadeau. C'est la même affaire ici. C'est-à-dire que moi, je déplore le fait qu'une compagnie décide que c'est le nombre de plaintes qui va faire foi si on back ou on ne back pas ce qu'on avait précédemment pris. Puis je vais finir là-dessus, c'est qu'il faudrait quand même se poser toujours la question, est-ce que c'est les plaintes qui décident de ce qu'on fait dans la vie? Est-ce que c'est les gens qui nous aiment pas qui décident de ce qu'on fait dans la vie? Ou on fait des choses pour les gens qui nous aiment, puis on assume qu'on est en société, puis que des fois on est heurté, puis que des fois on heurte d'autres. Si c'est fait avec une violence délibérée, bien entendu, ça n'a aucun sens. Si c'est fait parce qu'on se dit, ben regarde, nous autres, on peut pas parler à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, on est allé là. On trouve ça, on est des d'hommes, écoutez, on s'excuse, c'est bien plate, mais on l'assume. J'ai pas vu ça souvent comme réaction, je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire, hop, pas l'air, on s'excuse donc, parce que, je le répète, il y a eu un volume de plaintes. Matière à réflexion. Salut tout le monde.